Il pleuvait, je me souviens, t'étais trempé, t'as porté ton matériel photo, c'est lourd, il fallait pas mal marcher dans la brume, tu glisses dans la boue et t'arrives à cette petite maison en bois, toi, toute simple, un peu enfumée, et Diane elle arrive et elle commence à m'engueuler gentiment parce qu'elle avait fait un gâteau au chocolat pour moi et que j'étais arrivé 2 jours en retard et que le gâteau n'était plus bon, voilà. Et après, j'arrive dans cette pièce où elle était là avec toutes les photos des gorilles qui étaient partout dans la pièce, photos en noir et blanc partout. Voilà ma première rencontre le soir, éclairée avec une lampe de kérosène qui sent très mauvais. Elle me racontait un peu comment elle était arrivée là-bas et le mal qu'elle a eu à approcher les gorilles, parce qu'elle était quand même, je ne sais plus depuis combien de temps elle était là, mais elle était complètement intégrée à l'endroit.
C'était certainement quelqu'un d'absolument exceptionnel. Je pense que si elle n'avait pas agi, il y aurait peut-être plus de gorilles de montagne aujourd'hui.
Pourquoi on me voit tellement sur ces images?
Parce que c'est toi l'héroïne. Celle que le public veut voir.
Ah, la fille aux gorilles. Mm-hmm. Ça me fait passer pour une vraie dingue.
Diane Fossé, cœur de gorille, une primatologue en croisade.
Tu me trouves fêlée?
Ah ça oui, tout à fait, incontestablement.
C'est vrai que Diane Fossé a ce côté très très ambigu et il y a à la fois le modèle et puis l'anti-modèle en fait. C'est vraiment donné corps et âme pour décrypter le comportement des gorilles. Et de l'autre côté, Diane Fossé a été vivement critiquée pour ses extrêmes. Beaucoup de gens autour d'elle l'ont décriée, même après sa mort, en disant qu'elle préférait ses gorilles aux humains et qu'elle avait aucune pitié, voilà, qu'elle allait trop loin. Donc oui, il y a ce côté très ambigu parce qu'elle avait ce double visage.
Le dernier élément qui a été, à mon avis, capital, c'est évidemment sa mort tragique, son assassinat en 1985. Ça a évidemment marqué les esprits. Ça a fait d'elle une héroïne qui se serait sacrifiée sur l'autel des recherches à propos des gorilles et pour leur conservation.
The Tonight Show, 1985. Je suis nerveux à l'idée de rencontrer Diane Fossé. C'est quand même la spécialiste du plus grand des grands singes, le gorille de montagne. Elle a écrit un livre fascinant sur ses 13 années passées en Afrique, intitulé « Gorille dans la brume ». Elle donne actuellement des conférences à travers le pays pour la Maurice Animal Foundation. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Diane Fossé. Est-ce que le gorille des montagnes vous a toujours intéressé? Vous avez dû évidemment faire des recherches à son propos avant de partir.
Il n'y avait pas beaucoup de littérature à lire à ce sujet.
Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'études faites, j'imagine?
Oui, il n'y a qu'un seul Américain, George Scheller, qui a étudié les gorilles. Et j'étais sûre qu'il devait y avoir quelque chose de plus à apprendre sur ces très très rares animaux.
Combien de gorilles reste-t-il?
230, 233.
Combien était-il lorsque vous avez commencé vos recherches?
En 1960, George Scheller a estimé la population à environ 500.
Que s'est-il passé? Pourquoi sont-ils en train de mourir?
50% de la diminution de la population est due aux braconniers.
Des gens viennent et les tuent? Pourquoi? Quel est l'intérêt, auriez-vous, à tuer un animal comme celui-ci? Quelle valeur ça peut représenter?
Les Européens ont décidé que les crânes de gorilles faisaient de beaux trophées et que leurs mains faisaient de beaux cendriers.
Je pense que Diane Fossé, mais comme Jane Goodall sur les chimpanzés,
Emmanuel Grundmann,
puis Birute Galdikas à Bornéo avec les orang-outans, les trois ont inspiré vraiment toute une génération, voire plusieurs générations de femmes, parce qu'elles ont ouvert aussi la porte finalement des sciences aussi, ou en tout cas de ce domaine particulier des sciences qui était l'éthologie, l'étude du comportement animal. C'est une discipline qui est assez récente au final. C'était un peu une chasse gardée quand même. Masculine.
Et quand on voit les images de National Geographic avec des photos absolument sublimes de femmes dans la jungle avec des bébés singes dans les bras,
Chris Hertzfeld,
il semble qu'il y ait eu ce qu'on appelle le National Geographic Effect. Imaginez, à cette époque, la vie des femmes n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Et ces femmes étaient maîtres de leur destin. Lorsqu'elles étaient sur place, leurs assistants leur obéissaient, elles faisaient réellement ce qui était leur véritable passion. Et ça a fait rêver, en effet, des légions de chercheuses, énormément, surtout au tout début de l'invention de la primatologie.
À gauche. Voilà, c'est la porte de mon bureau.
Au Musée de l'Homme à Paris, dans le bureau de Chili Massi.
Oui, ça c'est le doigt argenté de chaque groupe que j'ai étudié. J'ai voulu mettre les photos de façon que tout le matin j'arrive et je suis dans le bonheur de voir les gorilles qui me regardent. Et comme Diane Fossey, on reconnaît les individus à partir de l'empreinte nasale. Donc là vous voyez, Mayel, il est très typique, il a deux trous sur ses narines. Lui, il est un peu plus comme un dessin animé. Et là, au centre, il y a Macumba, qui c'est mon doigt argenté préféré, et c'est lui que je connais le plus. On le voit dans les clairières et dans toute sa beauté.
C'est des photos de famille,
presque. Oui, c'est ça. Ça, c'est les échantillons.
On est rentré dans votre bureau.
Oui, on est rentré, j'avais laissé pour la technicien de génétique les échantillons fécales, donc des crottes de gorilles que je viens de ramener de l'Afrique. L'espace à moi, vous voyez, c'est très reconnaissable parce qu'il y a plein de gorilles partout, de façon que je me sente au moins un petit peu dans la jungle quand je suis dans le bureau. Donc il faut accrocher plusieurs photos. Comme vous voyez, il y a Macumba, Macumba, Macumba. Depuis que j'étais petite, j'ai regardé bien évidemment tout d'abord le film Gorille dans la brume. Après, j'ai dévoré, vraiment lu avec beaucoup d'attention les livres. Sûrement, Diane Fossey a été un modèle et j'ai rêvé de devenir comme elle. Et à 8 ans, j'ai vu un documentaire sur les gorilles de montagne. J'étais totalement capturée par deux gorilles de montagne qui regardaient un caméléon. Et après, un des gorilles a commencé à caresser le profil du caméléon, comme ça, jusqu'à la queue. Là, je suis tombée amoureuse des gorilles. Je voulais vraiment essayer de comprendre leur mentalité.
Diane Fossey, elle naît à San Francisco le 16 janvier 1932. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a une enfance assez triste. D'abord, elle ne s'entend pas avec sa mère. Ses parents divorcent quand elle a 6 ans. Ça a pour conséquence de lui ajouter un beau-père dans l'équation. Un beau-père qui la détestait visiblement parce qu'elle n'avait même pas droit à une place à table pendant les dîners de famille. C'est donc assez tôt qu'elle s'est réfugiée dans l'amour des animaux.
Plus tard, elle a d'abord, oui, effectivement, pensé devenir vétérinaire, mais en science, elle avait un peu des difficultés, donc du coup, elle a dû choisir un peu une autre voie.
Elle change complètement d'orientation et devient ergothérapeute en 1950.
De fil en aiguille, elle a eu une opportunité pour travailler dans un hôpital avec des enfants handicapés.
Et dans un des livres que j'ai lus, elle déclare que probablement avoir travaillé avec les enfants autistes l'a permis de mieux s'approcher aux gorilles, de mieux le respecter et de mieux les habituer. Par exemple, j'imagine qu'elle voulait dire qu'elle ne le pressait pas. Et c'est grâce au fait de rester à l'attente, à l'écoute, à l'observation qu'elle a pu les approcher au fur et à mesure, petit à petit.
Comme elle travaille, elle peut réunir de l'argent et peut réaliser son rêve, partir en Afrique. Et là, elle est dotée d'une envie irrépressible. C'est celle d'aller voir, observer des animaux sauvages et de vivre avec eux. Et c'est au cours de ce voyage-là, ce premier voyage en 1963, qu'elle rencontre pour la première fois des gorilles, notamment au Congo.
Je n'oublierai jamais ma première rencontre avec les gorilles. J'entendis,
je sentis avant de voir. Le bruit d'abord, puis une puissante odeur musquée, une odeur presque humaine. L'air retentit de cris perçants, suivi de bruits rythmés. C'était un énorme mâle qui se frappait la poitrine. Puis j'aperçus au travers du feuillage une panoplie de faces noires qui m'observaient d'un air furieux et inquisiteur. Ils cherchaient à déterminer s'ils avaient affaire à une amie ou à une ennemie.
Mémoire de Diane Fossé, Gorille dans la brume, 1983.
À la fin du voyage, elle va rencontrer un personnage tout à fait capital, c'est Louis Lequay, le fameux paléanthropologue qui a décidé de commencer des études de terrain des grands singes à long terme. En fait, ce paléoanthropologue ne savait pas comment vivaient les hominidés anciens qu'il récoltait sous forme de squelettes. Et donc, il se disait que nos plus proches cousins phylogénétiques seraient de bons témoins des origines. Il avait donc déjà envoyé Jane Goodall pour observer les chimpanzés. Ça faisait 3 ans qu'elle était sur le terrain, à peu près. Et donc, cette rencontre est extrêmement importante, même si elle ne se passe pas très bien.
J'ai rencontré le docteur Leakey en 1963 lors de mon premier safari. Je l'ai rencontré dans les gorges d'Olduvai. Elle faisait partie de mon itinéraire. C'était très excitant d'être dans le veld en Afrique et de courir partout. Et c'est là que je suis tombée littéralement sur l'une des fouilles du docteur Leakey, où j'ai vomi en me cassant la cheville partout sur ses fragiles ossements de girafe.
Je suppose que c'est une façon courante de se rencontrer en Afrique.
C'était une super rencontre. Et 3 ans plus tard, je l'ai recroisé de nouveau lorsqu'il est venu à Louisville, dans le Kentucky, et qu'il m'a dit « Tu es la femme qui a vomi sur mes fossiles ».
Donc, la première rencontre a été un peu bizarre, mais de toute façon, je pense que Leakey a vu tout de suite sa passion, parce que vraiment, pour moi, c'est la même chose. Quand je dois choisir des étudiants envoyés en Afrique, il faut vraiment voir surtout qu'ils ont la passion pour rester là-bas pour longtemps, isolés, à étudier les gorilles. Et donc, pour tester la motivation, je cache rien. Je cache rien des dangers. Il y a eu une chercheuse qui a été tuée par un éléphant des forêts. Les gorilles peuvent mordre. Seulement les gens qui sont vraiment passionnés seront sélectionnés. Et donc, Leakey a vu dans Diane Fossé que même si elle avait la cheville tordue, qu'elle pouvait pas marcher vraiment, elle, la seule chose qu'elle voulait faire, c'était d'aller voir le gorille.
C'est vraiment Leakey, hein, ce scientifique qui étudiait dans la gorge d'Olduvai au Kenya.
Yann Arthus Bertrand.
Qui a vraiment voulu engager 3 femmes. Et non pas des hommes, c'est assez intéressant, pour travailler sur les grands anthropoïdes, pour essayer de comprendre voilà, les relations qu'on avait. Parce qu'on a très très peu de gènes de différence entre tous ces grands anthropoïdes et l'homme. Et donc il a envoyé cette femme incroyable, Birute Galdikas, qui a travaillé sur les orangs-outans en Bornéo, Jane Goodall et Diane Fossé, travailler sur les gorilles.
Louis Lequay, les femmes, il les voyait comme d'emblée excellentes mères, capables, alors qu'aucune des femmes qu'il a envoyées sur le terrain n'était encore mère, capables de décrypter les comportements, les désirs d'êtres qui n'ont pas la parole, puisque les femmes s'occupent, entre guillemets, avec 10 000 guillemets, naturellement, des enfants.
Et a surgi cette idée assez géniale pour l'époque de se dire, mais on va essayer d'étudier les grands singes, mais dans leur milieu naturel. Et donc là, l'idée arrive d'aller vraiment sur le terrain et surtout de faire des études de longue durée sur le terrain. C'est comme ça que Louis Leakey a envoyé la toute première personne qui a été Jane Goodall sur les chimpanzés, puis ensuite Diane Fossé, puis Birute Galdikas à Bornéo avec les orang-outans. Et on les a appelés les trimates, les trimates, en référence aux primates. Et pourquoi des femmes ? Parce que lui avait cette idée, cette intuition que la sensibilité et le regard un peu différent des femmes pourrait peut-être changer la donne et aussi enlever ce côté formatage du milieu universitaire qui était en plus dominé par les hommes. Et puis après, voilà, trois femmes qui n'avaient pas forcément un cursus universitaire ou en tout cas pas dans ce domaine-là, pour qu'elles soient assez naïves et qu'elles voient des choses avec un œil naïf en fait. Et le fait est qu'elles ont observé des comportements que personne n'avait observés jusqu'à maintenant.
Son premier camp de base, ce sera Kabara, au Congo. Je dois vous dire qu'avant d'aller à Kabara, elle s'arrête chez Jane Goodall à Gombe. Et donc, Jane Goodall partage son expérience avec les chimpanzés avec elle. Donc, elle ne part pas sans aucune connaissance sur le terrain. Elle a également lu les deux livres de George Schaller, qui est allé en 1959 étudier justement les gorilles à Kabara.
La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble.
Mais on est dans un contexte un peu compliqué politiquement. La guerre éclate et elle est sommée de partir.
Elle est ennuyée par les autorités. Il semble même qu'elle ait été agressée, peut-être même agressée sexuellement, on ne l'a jamais su. Elle a aussi essuyé des attaques. On le dit rarement, mais elle a été terrifiée par les attaques des grands mâles. Vous imaginez des êtres qui ont presque 2 mètres et qui pèsent plusieurs centaines de kilos, qui se ruent sur vous. Et au début, elle était réellement terrifiée.
Mais bon, je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de caractère, comme on le voit par la suite. Elle veut pas baisser les bras et elle décide, contre l'avis de l'ambassade américaine, de rester, mais de l'autre côté de la frontière, du côté rwandais.
Elle s'installe à Karisoke en septembre 1967. Elle y restera jusqu'à la fin de sa vie. C'est d'ailleurs là qu'elle est assassinée.
Mais là, il y a un problème parce que les gorilles ne connaissent que les braconniers comme humains. Donc évidemment, l'humain représente un danger et donc là, il fuit dès qu'elle tente une approche. Et donc l'habituation pour Diane Fossé va être beaucoup plus compliquée à cet endroit et va mettre beaucoup plus de temps.
J'ai réussi à vaincre peu à peu leur réticence en imitant certaines de leurs activités, en me grattant, en me nourrissant à leur manière et en émettant des vocalisations manifestant le contentement. Je camouflais souvent les jumelles avec des feuilles pour ne pas effrayer les gorilles. Il était non seulement indispensable que les gorilles s'habituent à la créature en djinn qui faisait maintenant partie de leur vie quotidienne, mais encore que j'apprenne à reconnaître chaque individu dans un même groupe.
L'habituation, c'est un processus très long dans lequel on essaie d'approcher les gorilles de façon qu'ils, les gorilles ou les singes ou les grands singes, de façon qu'ils puissent s'habituer à notre présence. Et donc, au fur et à mesure du temps, on peut aller de plus en plus proche. Et le but de l'habituation, c'est que le gorille nous regarde comme un animal qui est autour de eux.
On est ici à la Terre des Gorilles, donc là où depuis un an, le Zoo Safari a accueilli 4 gorilles mâles.
Julie Platel, au parc zoologique de Thoiry.
Tous les animaux que vous voyez en parc zoologique, et c'est le cas des gorilles, sont des animaux qui sont nés en captivité. Le prélèvement en milieu naturel est interdit depuis les années 70, donc c'est des gorilles des plaines de l'Ouest.
Peanuts est en train de manger. Il s'arrête soudain et se tourne vers moi. Son expression est insondable. Fasciné, je lui rends son regard, un regard où se mêlent l'interrogation et l'acceptation. Peanuts pousse enfin un profond soupir et recommence à manger. Je rentre au camp et télégraphie au docteur Liquet. J'ai enfin été accepté par un gorille.
Le parc est fermé aujourd'hui. Donc en période hivernale, ça permet aussi de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire avec les animaux. Alors là, on est devant la porte avec marqué « Accès réservé aux Rangers » et on va rentrer dans l'antre des gorilles, c'est-à-dire dans le bâtiment.
Bonjour.
Là où ils vivent, là où ils vont... C'est les coulisses, en fait. Hop, on va passer les fils dans un pédiluve.
Ce travail de très longue haleine va payer. Et Diane Fossé va être en fait admise dans cette intimité d'une famille, d'un harem de gorilles des montagnes, et notamment avec ce gorille qui s'appelle Digit, et qui va vraiment lui ouvrir les portes de son monde. Et c'est vrai que Diane Fossé va entretenir un rapport très particulier avec Digit, avec ce jeune mâle gorille. Et donc voilà, ça va être un travail très long, mais elle va pouvoir entrer dans le quotidien de ces gorilles après ces longs mois de patience.
Allez, si je vous laisse passer, je vais refermer. Voilà, là on est dans le hall principal. Là on voit trois individus. Le plus gros qui est à gauche, c'est Wazungu, c'est notre dos argenté. Donc il a âgé 18 ans.
C'est très très impressionnant.
Oui, c'est très très impressionnant. Déjà parce que Wazungu, voilà, il est imposant. 1m90 de haut, 190 kg. Et en plus de ça, ce sont nos cousins. Quand on les voit, il y a forcément quelque chose qui va se passer, puisqu'ils ont une ressemblance vis-à-vis de nous qui est très frappante. On va pouvoir aller les voir de plus près tout à l'heure. Alors, la main de Wazungu, je pense, fait à peu près trois fois ma main. Mais ils ont effectivement les mêmes mains et ils ont une manière de se comporter où parfois, vraiment, c'est bluffant.
Bien que le gorille des montagnes ne soit pas une bête féroce, aucun d'entre nous au studio peut tout à coup aller dans la forêt pour s'en approcher. Comment avez-vous réussi à gagner leur confiance?
Ah, j'ai simplement eu de la chance, même si j'ai dû ramper pendant 2 ans et puis j'ai appris à...
Attendez. Vous deviez ramper?
Ramper sur les poings comme un gorille. Je ne me tenais pas debout, c'était un facteur menaçant. Alors je me contentais de ramper et d'imiter leurs vocalisations paisibles. Comme celles-ci, qui ont suscité leur curiosité, parce que petit à petit, je ne représentais pas une menace.
Néanmoins, vous avez noté un moment où vous vous êtes retrouvé face à une attaque de gorille. Comment c'était?
C'était de ma faute. C'était assez génial parce que le pauvre avait été menacé par le fait que je rampais d'en bas. Il ne savait pas que je venais. Je n'avais pas annoncé ma présence. Je ne savais pas qu'il était là. Alors quand il charge, c'est toujours du bluff. Et il s'arrête toujours juste devant vous. Mais ils seront très, très tendus. Et si vous tenez tête, pour tenir tête, il faut s'accrocher à toute la végétation autour de soi.
Allez-y, vous pouvez rentrer. Salut à vous. Il est juste un peu... Voilà, là, il n'est pas content, clairement. Il ne sait pas ce que c'est que ce micro. Ça va, Oisy. Tout va bien. Alors là, c'est rien, hein. c'est light, hein, les vocalistes qu'il fait. Je vais vous dire que quand il est vraiment pas content, c'est beaucoup plus fort que ça. Et je pense que Diane Fossé a dû se retrouver face à des doigts argentés qui lui ont fait des séances d'intimidation. Donc il faut imaginer se retrouver face à un gorille de 200 kg, qui fait de la percussion de poitrine, qui montre ses canines... et qui fait des hurlements qui s'entendent à plus de 5 km à la ronde. Et ensuite, tout redevient calme. Parce qu'il faut garder quand même en tête que le gorille est un animal pacifique. Et il va faire principalement de l'intimidation. Moi, j'ai eu peur à l'arrivée de Wazungu. Pourtant, à Toiré, on a des lions. Et j'ai beaucoup travaillé avec les fauves. Mais rien ne ressemble au rugissement d'un gorille. Rien.
Le matin, je suis parti voir les gorilles. Et on marche. J'avais un mal de dos épouvantable. C'est dans la montagne, dans le marché. Diane m'a fait venir des sorciers. Elle m'a même massé le dos un petit peu elle-même, tu vois. Un jour, il y a un jeune mâle, mais pratiquement à la taille d'un adulte, qui me fait une parade d'intimidation, mais terrible. Il tourne autour de moi, il me casse des branches. Je suis complètement terrorisé comme ça. Je sais pas le malin, le gorille, il tourne autour de moi. Il me donne un grand coup dans le dos et il me remet ma vertèbre en place. Et donc voilà, donc c'est un gorille qui a été l'ostéopathe ou le kiné au Rwanda.
C'est fini, Ayo. Fini.
C'est parti dehors.
Vous pouvez les regarder des heures.
On peut aller les voir dehors si vous voulez. Peut-être qu'il faut des fois, ils les nourrissent un peu à l'extérieur.
C'est bien, Azou.
J'essaye d'imaginer Diane Fossé, toute seule dans une jungle, face à ces animaux-là.
Surtout qu'elle était face à des troupes beaucoup plus impressionnantes en plus, puisqu'elle vivait avec des groupes familiaux qui étaient parfois constitués de 10 à 15 individus. Donc c'était encore plus impressionnant.
J'ai pas de fenouil. On a combien des...
Et puis elle avait aussi une proximité énorme. Nous, on n'est jamais au contact direct de nos gorilles. On est toujours séparés d'eux alors, par des grilles, ou ici, vous voyez, par une rivière. Alors qu'elle, elle était vraiment à quelques mètres. Elle a même eu des contacts physiques. Certains gorilles venaient la toucher. Donc vraiment, elle a vécu quelque chose qui est juste exceptionnel.
Est-ce que je pourrais poser une question ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que vous pensez que ça signifie? Je suis ton ami. Je suis content, pas toi?
En fait, Diane Fossé avait compris que ce qui était important, c'est chez les gorilles de se comporter comme les gorilles. Vous connaissez l'adage « à Rome fait comme les Romains ». Eh bien, elle dit que dans le gorille à l'Inde, il faut faire comme les gorilles. Et très vite, elle a connu ce que j'appelle un devenir gorille. Donc, vraiment, cette notion de qui fait écho à la notion de devenir animal de Deleuze et Guattari, c'est-à-dire qu'elle les connaissait tellement bien, elle vivait tellement toute la journée avec eux, jour après jour, année après année, saison après saison. Le soir, quand elle revenait de ses expéditions, elle tapait ses notes. Elle était encore avec ses gorilles, avec les photos des gorilles. Et donc, elle était tellement proche qu'elle était tout à fait capable d'imiter leur vocalisation, de manger les plantes qu'ils mangeaient, de faire des petits bruits rassurants pour les gorilles. Et en effet, le but était atteint. Les gorilles étaient beaucoup moins perturbés avec ce drôle d'humain, ce singe sans poils, qui adoptait exactement les mêmes comportements qu'eux.
Pendant l'habituation, les vocalisations qu'elle faisait plutôt, c'était des vocalisations qu'on appelle en anglais close contact, ça veut dire de contact voisin, ça veut dire que ce sont des vocalisations que le groupe fait pour se coordonner et pour donner la position de chaque individu. C'est plutôt quelque chose comme ça, qui est très guttural. Mais la vocalisation que j'étudie particulièrement et qui m'intéresse beaucoup, c'est une vocalisation que les gorilles font pendant l'alimentation. Et c'est très joli parce que ça semble vraiment qu'ils ont le plaisir de manger. Et il semble que les femelles font ça pour dire « Ici, il y a quelque chose à manger, venez, venez !» Et comme ça, tous les groupes, c'est vraiment pour coordonner les groupes et pour avoir ces enfants qui arrivent, pas les autres. Et le dos argenté, de façon qu'elles sont protégées et qu'il ne va pas loin. Et ce qu'on essaie de comprendre, s'il y a une syntaxe dans le langage des grands singes pour mieux comprendre l'origine de l'évolution des langages chez l'homme.
Peanuts m'observait avec attention à travers les arbres et s'approchait lentement en se dandinant. Soudain, il fut tout près de moi et s'assit pour me regarder. J'ai fait semblant de manger, ne semblait pas très intéressé, alors j'ai changé d'activité et j'ai commencé à me gratter la tête bruyamment, comme eux. Presque aussitôt, Peanut s'est mis à se gratter aussi, on ne savait plus qui imitait qui. Je me suis allongée sur le feuillage pour me faire aussi inoffensif que possible. Et dans un geste très lent, j'ai tendu la main vers lui. Je lui ai d'abord présenté la paume qui ressemble plus à celle des gorilles. Quand j'ai vu qu'il reconnaissait que c'était une main, je l'ai lentement retournée et je l'ai abandonnée sur le feuillage. Peanuts a semblé réfléchir. Il a fait un pas. Il a tendu sa propre main et il a délicatement passé ses doigts sur les miens.
Un jour, les gorilles se sont approchées, sont même venues la toucher. Mais pour ça, elle n'a rien fait. Ce n'est pas elle qui est allée au contact, c'est eux qui sont venus vers elle. Et c'est donc de la patience pour faire ce genre de travail. Et il faut accepter que ce soit les animaux qui choisissent et pas nous.
C'est quelque chose d'inexplicable parce que c'est magnifique de voir, de pouvoir un jour être assis à côté de Dou Argenté qui te regarde dans les yeux de façon pacifique. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment décrire. C'est quelque chose qui te fait sentir vivant et c'est vraiment... J'ai pas de mots pour décrire. C'est quelque chose de magnifique parce que c'est dans le paradis des gorilles.
Quand tu es photographe animalier, que tu es comme moi obsédé par la nature, les animaux, de voir des animaux si gros, si importants, qui n'ont pas peur de toi, c'est un miracle. Et voilà, le matin, je suis parti et on marche, et on voit les gorilles de très très au loin là-bas, et il pleut, j'étais sous ma bâche avec mes appareils photo, donc je ne sens rien du tout. Et puis, un moment magique, il y a un petit rayon de soleil, tous les gorilles arrivent. Là, ils filent autour de moi, mais quand je dis autour de moi, ils étaient vraiment autour de moi, quoi. Là, il y a un gros gorille, le gorille dominant, qui me regarde comme ça, il se hérisse un peu le poil, il me fait une petite parade d'intimidation, pas trop forte. Il se met à taper un peu sur la poitrine. Et Diane m'a dit, ne les regarde pas dans les yeux. Moi, je baissais la tête comme un fou. Et après, il se couche, il s'endort. Et il pose sa tête sur mon pied comme un oreiller. Je n'osais pas bouger. Et c'est assez impressionnant parce que j'ai pleuré d'émotion.
Alors, elle a, par son approche et son habituation,
Sabrina Krief,
inventé une façon d'observer les gorilles. Mais aujourd'hui, on est revenu en remettant de la distance, c'est-à-dire que elle a sûrement poussé à l'extrême cette méthode d'observation. Et aujourd'hui, on sait que ça met les gorilles en péril parce que ça risque de transmettre des maladies, le fait d'être aussi proche qu'elle l'a été des gorilles, mais également que ça interfère éventuellement avec leur comportement. Aujourd'hui, l'idée est vraiment d'être le plus neutre possible dans l'environnement des grands singes.
Scientifiquement, en fait, elle a vraiment décrypté le comportement des gorilles qu'on ne connaissait vraiment pas ou peu. Et donc voilà, elle les suit du matin au soir, du lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit, sans répit, tous les jours, dans un milieu vraiment pas facile. Donc on est dans le parc national des volcans, donc ça grimpe. Et elle notait absolument tout ce qu'ils faisaient, tout ce qui se passait, ce qu'ils mangeaient, les relations sociales qu'ils pouvaient avoir. Et en fait, elle va vraiment poser en fait toutes les bases du comportement des gorilles de montagne. On peut aussi imaginer à quel point elle avait cette volonté de comprendre jusqu'au bout.
J'ai senti un bras autour de mes épaules. Relevant ma tête, j'ai vu les yeux tendres et pensifs de Digit. Il m'a tapoté la tête et s'est assis à côté de moi. J'ai posé ma tête sur ses genoux. En de pareils moments, je sens se dissoudre mon détachement scientifique.
Comme vous savez, les grands singes font partie de la même catégorie, les hominidés, que nous, et pourtant on les rejette du côté animal. Je pense que pour Diane Fossé, il n'y avait pas ce genre de frontières, et elle incarne réellement, beaucoup plus que d'autres, le monde commun qu'il y a entre nous. Ces grands singes, que sont les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans et les bonobos, sont réellement des espèces cousines, je dirais même mieux des espèces sœurs. Et il n'en reste pas tellement, puisque tous les hominidés anciens ont aujourd'hui disparu, je pense, de Néandertal et d'autres hominidés anciens. Nous ne sommes plus que quelques espèces d'hominidés sur Terre.
Elle a vraiment montré que le gorille était loin d'être cette brute sanguinaire dont on a l'image, alors avec King Kong. Donc elle a vraiment montré que le gorille était loin de cette image et que c'était finalement un doux géant qui vivait assis dans son garde-manger, qui était végétarien et vraiment un primate assez cool, assez tranquille.
Lorsque vous dites gorille, à la plupart des gens, ils pensent à King Kong ou ils pensent essentiellement à quelque chose de peu féroce. Cette réputation est-elle méritée ?
Pas du tout. En fait, King Kong était vraiment un gars plutôt sympa. C'est l'histoire de Freeway qui vous dérange. Mais les gorilles sont si doux, ils sont timides, ils sont curieux. Ils ne seront jamais agressifs que lorsqu'ils prendront la défense de leur propre famille, de leurs propres compagnons ou de leur progéniture.
Comme vous aviez noté dans votre livre, Gorilles dans la brume, qui est l'histoire de vos années passées dans la forêt à étudier les gorilles, ils ressemblent beaucoup aux humains dans leur structure sociale.
Ils ont nos attributs les plus subtils. Ils ont des unités familiales cohérentes qui sont sous la direction d'un mâle dominant et il est attaché, lié à ses femelles pour la vie. Et il se battra jusqu'à la mort pour sa progéniture.
Et donc, elle a complètement inversé le mythe du gorille bestial et sauvage. Elle en a fait des êtres préoccupés par leur famille, y compris les grands mâles d'eau argentée, et tout à fait calme et non violent. Longtemps, on a complètement confondu des comportements qui étaient des comportements de protection du groupe pour des comportements agressifs. Alors quand on voit cette femme isolée dans la jungle, qui tend la main vers son gorille préféré, Digit, qui est déjà un mâle de belle taille, c'est une image qui est plus parlante que tous les discours. Ça va la rendre extrêmement populaire, cette inversion de l'image du gorille, être si impressionnant dans nos pensées. Et par ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a bénéficié d'un énorme soutien, support au niveau de la médiatisation. Dès janvier 1970, elle apparaît en couverture de National Geographic.
La façon dont National Geographic a fait ses couvertures avec les primatologues, quand c'était des femmes qui étudiaient les primates, les femmes étaient en couverture avec leurs sujets d'études. Quand c'était des hommes qui étudiaient les primates, on laissait que le primate en couverture et le primatologue, lui, arrivait dans le magazine. Ou en tout cas, les médias, pendant longtemps, ont joué sur ce côté féminin et sur ce côté Belle et la Bête qui fascine. Donc voilà, c'était la porte d'entrée pour sensibiliser le grand public et essayer de tirer la sonnette d'alarme sur ce qu'elle vivait au quotidien sur le terrain.
Elle travaille à Carisoke à un moment tragique pour les gorilles. Parce que, en 1960, je pense qu'ils sont 800. Mais en tout cas, il y avait une perte drastique de gorilles parce que un trafic était mené dans ces forêts, tant de faune, de flore, d'or, de métaux précieux, de charbon de bois. Et les gardes qui étaient là pour protéger les gorilles, en réalité, était de mèche avec les trafiquants, semble-t-il.
Je me mets bien à sa place, ça a dû être assez viscéral pour elle, de vivre là-bas, de voir ses animaux naître, grandir, mais aussi mourir, malheureusement, et de mourir parfois de manière extrêmement tragique, parce que parfois, les jeunes sont retirés à leur mère pour être capturés à l'époque, pour être vendus à des eaux, hein, ça se faisait à l'époque. Et généralement, en plus, quand ils faisaient ça, ils décimaient des familles entières, uniquement pour récupérer un ou deux bébés. Donc c'est un véritable carnage. Donc elle a dû aussi voir des scènes assez difficiles à accepter. D'ailleurs, elle a créé un cimetière pour ses gorilles. Donc dès qu'un gorille mourait, un gorille qu'elle connaissait, eh bien, elle faisait venir les rangers qui portaient le corps, qui les enterraient dans ce cimetière.
Je me souviens très bien de ces images, oui. Voilà, tout le monde, voilà. Ah, c'est là, je me souviens bien de cette photo. Oui. Tu te dis quoi il pense, quoi. ça, c'est le mal à dos gris. Bon, on voit quand même que le gorille, il n'est pas petit, quoi. C'est un monstre. Voilà. Alors ça, c'est Diane Fossey. On voit bien. Elle n'est pas si âgée que ça, en fin de compte. Elle a quel âge quand elle est morte?
53 ans. Mais c'est là, cette photo, je veux bien que vous la décriviez.
Mais t'as tous les pièges qui sont, voilà, elle avait mis sur la table tous les pièges que les gardes ramenaient tous les jours. Je voyais le matin, quand elle disait aux gardes qui partaient avec des fusils, parce qu'ils avaient des fusils, les gardes, contre les braconniers, on sentait bien qu'elle était... Il y avait une espèce de milice, quoi, une espèce de milice populaire, tu vois, pour protéger ces gorilles. Il y a un moment où Je pense que ces gorilles étaient plus importants que la vie humaine, j'en suis sûr. Mais je comprends ce qu'elle veut dire, quoi. Je suis sûr qu'elle aurait été prête à tuer un braconnier. Ça, c'était évident qu'elle était tellement été... pas violente, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Il y a un moment où c'est de la guerre, tu veux protéger ce que tu aimes, et je pense que, bien sûr, elle avait beaucoup d'ennemis.
Ian trouva d'abord le corps mutilé de Digit, gisant dans une mare de sang sur des feuillages piétinés. La tête et les mains avaient été coupées. Le corps portait des traces de multiples coups de lance. Ian et Némeyé partirent à ma rencontre afin de m'apprendre la catastrophe et de m'éviter le choc de la découverte. Pendant que Ian me racontait l'horrible nouvelle, je revoyais défiler devant mes yeux toute la vie de Digit depuis le premier instant où je l'avais vue, 10 ans plus tôt, petite boule soyeuse de fourrure noire. Je me sentais comme amputée d'une partie de moi-même. Digit était mort, tué par les braconniers le 31 décembre 1977. Il avait reçu 5 coups de lance mortels, en tenant en respect 6 hommes et leurs chiens. Grâce à lui, tous les membres de sa famille, sa compagne Simba et l'enfant qu'elle portait, avaient pu fuir en sécurité dans la montagne. La pensée de l'angoisse et de la souffrance qu'il avait endurée et de la compréhension qu'il avait peut-être eue de la cruauté humaine, me serrait le cœur.
C'est le grand choc de sa vie, comme elle le dit, c'est le jour le plus triste qu'elle ait pu vivre. Digit est assassiné, et là où le drame est d'autant plus intense, c'est que quand elle le découvre, en fait, il est décapité, ses mains sont coupées, et les gens qui l'ont côtoyé parlent vraiment d'une sorte de descente aux enfers. Elle s'enferme dans sa chambre, elle boit, elle fume, elle est en dépression, en fait. Cette mort a été vraiment pour elle un choc terrible. De toute façon, elle se remettra pas, mais qui va la pousser de plus en plus vers des extrêmes dans sa lutte anti-braconnage.
Alors là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fonde, après la mort de Digit, un Digit Fund. Elle a fait une tournée, elle a expliqué son combat pour sauver les gorilles qui étaient réellement menacés. Et donc, évidemment, cette cause était juste et elle était très sensible au public. Et elle a récolté énormément d'argent. Donc là, elle a fait une conservation beaucoup plus soft, c'est-à-dire qu'elle a donné de l'argent pour des salaires, des uniformes, elle a organisé des patrouilles. Je vous donne un exemple. En 1979, en 4 mois, ces patrouilles ont détruit environ 1000 pièges.
Et oui, elle était activiste parce qu'elle était... Elle était contre les locaux, quand même. Parce que, elle leur en voulait, elle savait que les braconniers tuaient les gorilles, qu'ils étaient aidés par les rangers à l'époque. Parce que, au niveau des salaires, on va dire que les rangers étaient tellement peu payés, parfois même pas payés pendant des mois, que du coup, ils se faisaient soudoyer par les braconniers. Des fois même, elle a soupçonné que les armes qui étaient utilisées pour tuer les gorilles étaient les armes des rangers. Donc, elle était très en colère contre les locaux et contre les politiques aussi locaux, pour l'absence d'engagement qu'il y avait sur le terrain, etc. Donc oui, elle allait au front elle-même. Elle menait les enquêtes. Quand elle voyait qu'on ne trouvait pas qui avait tué telle famille de gorilles, et bien c'était elle qui allait sur le terrain. Elle autopsiait les gorilles pour récupérer les balles, pour essayer de trouver quelle arme avait été utilisée. Donc oui, on peut dire que c'était une activiste. Mais en même temps, elle a tellement fait bouger les choses qu'on ne peut pas lui en vouloir.
Elle était très controversée parce que, au fur et à mesure du temps, ses méthodes contre les braconniers sont devenues un peu trop, je dirais, peu humaines, de façon qu'elle vraiment, elle a essayé de les effrayer avec des masques, faisant semblant qu'elle faisait de la magie noire. Si vous étiez en Afrique, vous savez, la magie noire, c'est très important. Donc, c'est quelque chose de très fort pour la population.
Elle était revenue des États-Unis avec des masques d'Halloween. Et ça impressionnait vraiment beaucoup les personnes autour d'elle, les braconniers notamment. Et on l'a appelée la sorcière blanche. Elle arrivait en bondissant avec son masque de mort. Et ça avait un certain effet sur les gens.
Elle va pas hésiter non plus même à kidnapper, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas à détenir un enfant de braconnier pour faire un peu de chantage, pour faire peur, à tirer sur leur bétail. Elle va aller assez loin dans sa, finalement après, dans sa croisade contre ceux qui ont tué Digit.
Elle a quand même également fait subir des maltraitances physiques et humiliantes, notamment sur les parties sexuelles des braconniers. Elle a aussi, elle ne s'en est pas seulement pris aux braconniers, elle était vraiment furieuse qu'il y ait de l'écotourisme dans ces montagnes. Elle essayait de faire tout ce qui était dans son pouvoir, mais je pense que c'était complètement contre-productif. Elle n'aurait absolument pas dû faire les choses comme cela, mais la situation n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Réellement, le nombre de gorilles n'avait jamais été aussi bas. Il est descendu presque à 200 gorilles, vous imaginez, et voir régulièrement des cadavres, des petits. Je peux comprendre sa colère, mais pas ses actes.
Quand on lit ses écrits et quand on découvre sa vie, on se rend compte que les relations avec les villageois et les locaux étaient très violentes. Le fait de fouetter des guides avec des orties ou encore d'utiliser leur peur de la sorcellerie pour les traumatiser, c'est probablement pas la bonne méthode pour pouvoir améliorer la situation. Donc aujourd'hui, avec du recul, évidemment, ça semble complètement aberrant de se comporter de cette façon-là.
Elle était assez amère. Amère d'avoir l'impression qu'aujourd'hui, plus personne ne s'intéressait à son travail, qu'elle avait tout fait sur les gorilles. Elle avait épuisé toutes les ressources des fondations, du National Geographic, des universités. Elle était déçue. Elle avait l'impression de ne pas être reconnue à sa juste valeur. J'ai plutôt senti quelqu'un qui était blessé de ne pas être reconnu, de se dire, voilà, j'ai fait tout ce travail, il va falloir que je parte, j'ai plus d'argent. C'est pour ça aussi qu'elle voulait qu'on fasse des sujets photos sur elle, et ça la rendait malade. Elle était hystérique, elle a pensé qu'elle allait quitter ses gorilles. Je ne sais pas depuis combien de temps elle était avec les gorilles, mais je pense qu'elle était, c'était insupportable pour elle de quitter. Vous imaginez, vous avez passé 20 ans de votre vie, et vous n'avez plus d'argent, vous partiez, et vous n'arrivez pas à trouver les moyens pour continuer, quoi. Voilà, c'était un peu triste.
Moi, j'ai passé 4 ans dans la forêt avec les gorilles. Je me suis rendu compte que de plus en plus, on est isolé dans la forêt. De plus en plus, on devient cynique. On se détache un peu de notre socialité, de notre façon de vivre ici. Vraiment, parce que quand on est dans la forêt, on a des soucis qu'ici, on n'a pas. On se confronte parfois entre la vie et la mort. Moi, j'ai pensé de mourir au moins 5 ou 7 fois par des éléphants qui sont arrivés à 1 mètre de moi en charge. On a les serpents, on a les rencontres avec les braconniers. C'est une vie quand même qui est très difficile. Et donc, un peu, je pense que t'amène à l'isolation et à redevenir un peu moins sociale dans le sens de la compréhension de l'autre. Et elle s'est figée de plus en plus dans des idées sans se rendre compte qu'elle avait des humains en face d'elle, parce qu'elle était toujours isolée.
Je pense que perdre un de ses gorilles, pour elle, c'était perdre quelqu'un de sa famille, quoi. Donc il y avait cette espèce de, j'exagère peut-être, mais vous voyez, ce côté de mère qui est prête à mourir pour protéger ses enfants, quelque part. Tu peux être injuste, bien sûr, et on peut pas lui reprocher, parce que ce qu'elle faisait, elle était la seule à le faire, quand même, à cette époque-là. Il n'y avait pas beaucoup de gens comme ça qui étaient à sa place.
Aujourd'hui, pour travailler sur les grands singes dans une région très proche, je sais à quel point ça fait mal quand un individu qu'on étudie est tué ou blessé par un braconnier, mais je sais aussi que la façon de pouvoir améliorer les choses, c'est bien par le dialogue et pas par la violence. Malheureusement, elle a aussi contribué à un peu faire penser que les Africains étaient responsables de la disparition des gorilles et des grands singes en général, alors que aujourd'hui, on sait que la principale menace est celle qui pèse sur l'habitat, sur les forêts, et que nous en sommes, nous aussi, consommateurs du Nord, responsables. Il faut aussi se souvenir et savoir que le braconnage est souvent le résultat d'une lutte individuelle pour sa survie et pour manger le lendemain.
Voilà, donc évidemment, c'est une image très contrastée, c'est une image de la violence du combat sur le terrain. Quand on est seul et face à la douleur, on prend parfois des mesures et des stratégies extrêmes qui ne parviennent pas à régler la situation vu la fin qu'elle a eue.
L'assassinat en Afrique de Diane Fossey, qui s'était rendue célèbre en étudiant les gorilles avec lesquels elle vivait depuis près de 18 ans dans les montagnes du Rwanda. Elle avait 53 ans, les gorilles étaient sa passion. Elle était certainement la meilleure spécialiste de ces animaux. Apparemment, elle a été tuée par des braconniers. C'est une grande zoologiste.
26 décembre 1985.
Diane Fossey, ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant c'était une femme extraordinaire à bien des titres. Elle était américaine et zoologiste, et elle a consacré une grande partie de sa vie à étudier les mœurs des gorilles. Elle a été assassinée par des inconnus l'autre jour, sans doute par
ses
des braconniers qu'elle gênait.
C'était ses gorilles, n'est-ce pas ? C'était pas les gorilles, c'était les siens. Et si l'on touchait d'une manière quelconque, on touchait à ses enfants, on touchait à son bien. Et elle devenait furieuse. À la fin, elle devenait furieuse.
Quelqu'un s'est introduit pendant la nuit dans sa maison à son insu. Il faut dire qu'elle avait le sommeil lourd parce qu'avec les cachets, l'alcool et tout ça, pour la réveiller, c'était pas facile. Malgré tout, elle s'est réveillée pendant son agresseur l'a réveillée, puisqu'il y a eu bagarre. Le pistolet, elle a réussi à le sortir du tiroir. Alors maintenant, qui l'a assassinée ? Là, je crois que ça reste vraiment mystérieux. Je veux dire que là, vraiment, c'est le mutisme. Personne ne parle.
En 1985, on la retrouve en effet massacrée à coups de machette dans le visage, sur le crâne. Et c'est son étudiant Wayne McGeer qui la retrouve. Et on ne sait toujours pas, c'est réellement resté un mystère, on ne sait toujours pas qui l'a assassinée. Mais il y a des hypothèses. Pourquoi on ne sait pas qui l'a assassinée ? Parce que l'enquête a été menée n'importe comment. Il y avait notamment des traces dans le sol, double piste d'empreintes de pieds nus. Alors certains disent ça pouvait pas être des Européens, c'était des Africains. C'est pas sûr parce qu'ils auraient pu enlever les chaussures pour berner tout le monde. Elle avait des cheveux dans les deux mains qui semblaient ne pas être africains mais plutôt de type européen. La maison était complètement sans dessus-dessous. Rien des valeurs n'avait été prises. Ces pistolets, tout a été laissé sur place. Donc, on trouve ça un peu bizarre de dire que ce sont des braconniers parce qu'ils auraient pu prendre tout cela. Par contre, bon, bien sûr, la lutte de Diane contre les trafiquants, c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond, Diane Fossey. Il y a toutes sortes de trafics, charbon de bois, métaux précieux, faune, flore. Et là, elle empêchait tout ce joyeux trafic, joyeux entre guillemets. Pour certains, le meurtre de Diane Fossey aurait été commandité par une autorité rwandaise qui aurait été impliquée dans ce trafic d'or, ou peut-être un autre trafic. Et le problème, c'est qu'elle était en relation avec Hollywood et l'industrie de Los Angeles pour faire un film à propos de sa vie. Et elle avait dit qu'elle comptait utiliser cette occasion pour révéler cette complicité entre les agents officiels d'État qui étaient en charge de protéger les gorilles, de protéger les réserves naturelles, et les trafiquants. Voilà ce qu'on sait.
Du coup, son assassinat tragique a fait la une et tout le monde s'est ému de cette fin. Ça a été un immense coup de projecteur sur le braconnage, sur le peu de gorilles de montagne qui restaient dans le monde. Et finalement, tout le monde s'est mobilisé. Il y a eu une sorte de grand élan mondial pour essayer de poursuivre son combat. Mais je pense qu'effectivement, malgré tout, avec le recul aujourd'hui, on peut se dire que peut-être cette fin, c'est aussi un cadeau, le dernier cadeau qu'elle a pu faire à ses gorilles.
C'est surtout une ambassadrice, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui la cause des gorilles est aussi connue. Donc son œuvre, on va dire, a permis un véritable déclic au Rwanda sur la protection des gorilles. Aujourd'hui, économiquement parlant, le Rwanda vit grâce au tourisme qu'il y a autour du gorille des montagnes. Et ça prouve justement que quand on met les moyens, quand des gens s'investissent pour la protection des espèces, eh bien on peut les sauver. Puisqu'aujourd'hui, la sous-espèce des gorilles des montagnes, elle est en augmentation et plus en réduction. Donc oui, elle a marqué pour toujours le monde de la conservation.
Si on pense que la population de gorilles de montagne, à cause du braconnage, a été shootée jusqu'à 250 individus, ce qui est très critique pour une espèce, ça peut amener vraiment à l'extinction de l'espèce. Aujourd'hui, on a plus de 1000 individus. Donc, vous voyez comme les efforts de conservation grâce au écotourisme et surtout grâce à elle ont permis vraiment de sauver cette sous-espèce des grands singes qui aujourd'hui est la seule qui n'est pas en train de diminuer. Ça me fait venir les... je ne sais pas comment vous dites les...
la chair de poulet.
Oui, ça me fait venir la chair de poulet en pensant que tout ce qu'elle a pu faire, ça donne vraiment de l'émotion parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, on peut avoir encore les gorilles de montagne.
J'ai un peu de ces images, dis donc. Je suis content de les retrouver. Elle est belle ici, là. Allez, toi, voilà. Il y a une photo, malheureusement, qui n'est pas. C'est la photo où elle est en train de regraver avec un stylo feutre le nom des gorilles qu'elle avait enterrés. Autour de sa maison, il y avait le cimetière de ses gorilles. Tous les gorilles qu'elle avait connus, elle les avait enterrés près de chez elle. Voilà.
Elle était enterrée d'ailleurs aussi.
Elle a été enterrée là sur place, oui. Alors maintenant, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mon avis, ça doit être un endroit un peu, malheureusement, un peu organisé, je pense, tu vois, avec des flèches, tu vois, pour les touristes.
Avec Yann Arthus-Bertrand, photographe, Emmanuel Grundmann, primatologue, Chris Hertzfeld, philosophe des sciences, Sabrina Krief, primatologue, Shelly Massy, primatologue et spécialiste des gorilles, et Julie Platel, éthologue au Parc zoologique de Thoiry. Lecture, Lison Pinet, documentation INA, Inès Barja, documentation musicale, Antoine Villoz, prise de son, Yvan Turc, Jason Daous, mixage, Régis Nicolas. Coordination Anaïs Quien, attachée de production Sylvia Favre. C'était Diane Fossé, Cœur de gorille, une primatologue en croisade, un documentaire de Natacha Triou, réalisé par Véronique Samouilov.
Non mais comment il faut faire pour chanter dans le micro? Comme ça,